France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Bah, ma mère, elle dit, si tu connais pas le tibétain, bah, t'es plus un tibétain.
C'est important d'apprendre notre langue.
En ce moment, notre pays est occupé par la Chine, mais notre culture et notre identité, ça existe toujours. Et c'est notre responsabilité de garder notre identité jusqu'au bout.
C'est pas un combat qui est prêt de s'arrêter. On va pas abandonner. La nouvelle génération a toujours décidé de continuer le combat. Et c'est ce qui est beau finalement.
Le Dalai Lama a fêté ses 90 ans cet été. Et la succession du plus haut chef spirituel du Tibet est dans tous les esprits. 75 ans après l'invasion du Tibet par la Chine, qui considère le territoire himalayen comme une région autonome, le Parti communiste chinois estime que c'est à lui de choisir le successeur de l'actuel Dalai Lama après sa mort. Et le président Xi Jinping, en visite à Lhasa en août, a appelé à guider le bouddhisme tibétain vers une adaptation à la société socialiste. Mais pour Tenzin Gyatso, en exil en Inde à cause de la répression chinoise depuis 1959, il n'est pas question que la Chine s'en mêle et son successeur doit être désigné selon les règles de réincarnation du bouddhisme tibétain. Le 14e Dalai Lama, prix Nobel de la paix en 1989, est un symbole d'unité et de résistance pacifique face aux tentatives d'effacer l'identité tibétaine. Dès sa fuite en Inde, il a appelé à construire des écoles, à transmettre la langue et le savoir, et son message a été relayé dans le monde entier par la diaspora. Aujourd'hui encore, malgré les pressions de la Chine, pour qui même le mot Tibet est devenu tabou, elle défend inlassablement sa culture. Tibétain de France, préserver son âme en exil, c'est un reportage signé Nathanaël Charbonnier. Bonjour Nathanaël.
Bonjour.
Pour Grand Reportage, vous êtes allé à la rencontre des Tibétains de Paris.
Oui, et on en trouve un peu partout finalement des Tibétains à Paris. Ça peut commencer tout simplement à la mairie du 11e arrondissement de Paris. Il faut savoir que c'est une mairie qui est jumelée avec la ville de Lhasa au Tibet. Mais si on se promène aussi le mercredi, le dimanche, dans les jardins d'Éole, dans le 18e arrondissement, vous allez pouvoir retrouver toute la communauté, en tout cas une grande partie de la communauté tibétaine, qui vient danser, discuter, chanter, manger... dans ce jardin. Mais c'est pas terminé, vous l'avez dit, il y a des restaurants tibétains un petit peu partout dans Paris, il y a les jeunes qui poursuivent le combat sur Internet, et puis il y a ces enfants qu'on va entendre dans quelques minutes qui apprennent le tibétain, ils sont des dizaines, voire des centaines à le faire à Paris également.
Deux invités sont en studio avec nous. Marie Holtzmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et traductrice, spécialiste de la Chine contemporaine et de la dissidence chinoise. Et bonjour Françoise Robin.
Bonjour.
Vous êtes tibétologue, professeur de langue et de littérature tibétaine à l'INALCO, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Et d'ailleurs, on va vous entendre tout de suite dans le reportage de Nathanaël Charbonnier, puisque vous lui avez donné quelques bonnes adresses.
Alors nous sommes devant le restaurant Les Joyaux du Tibet et voici Françoise Robin. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire visiter ce petit quartier de Paris. Pourquoi vous m'avez demandé de venir ici ?
Ici parce que c'est à la croisée de plusieurs rues où il y a de plus en plus de restaurants tibétains. Donc j'ai pensé que c'était un bon moyen de vous faire découvrir le petit Tibet à Paris en fait.
On l'appelle comme ça le petit Tibet à Paris ? C'est vous qui l'avez inventé ?
Un jour peut-être ça va s'appeler comme ça.
Mais il y a beaucoup de restaurants tibétains, c'est ça ?
Écoutez, j'ai fait le compte aujourd'hui entre le 10e arrondissement où nous trouvons, et encore c'est une partie du 10e, et le 19e qui est vraiment qui jouxte là. Sur un petit espace, une petite superficie, on a 22 restaurants tibétains. C'est quand même beaucoup, sachant qu'il y en a un peu plus du double à Paris. Donc ils sont vraiment très très concentrés ici. Et a priori, ils s'installent aussi à des endroits où il y avait des restaurants chinois. Il y a peut-être un petit message derrière de leur part, ou une volonté, je ne sais pas.
Donc là, c'est les joyaux du Tibet.
Oui, c'est les joyaux du Tibet. Alors si vous voulez l'histoire du nom, le nom tibétain c'est Nodling Sakang, c'est-à-dire le restaurant du parc aux joyaux. Et le parc aux joyaux, c'est le nom du palais d'été du Dalai Lama que celui-ci a quitté quand il s'est enfui en exil en 1959. Donc en fait, il y a un petit clin d'œil à l'histoire aussi dans le joyau du Tibet. C'est aussi le parc, dernière résidence du Dalai Lama au Tibet.
Bonjour.
Bonjour.
On peut se serrer la main ?
Oui.
On se serre la main aussi au Tibet ?
C'est ça.
Oui.
Souvent, c'est bienvenue. Souvent, c'est comme ça. Oui. Avec le respect.
Avec le respect.
Voilà.
Vous êtes Geshe-la ?
Oui, c'est ça.
Bonjour Geshe-la. Oui. Et ça veut dire quoi Geshe-la ?
Geshe-la, c'est un titre de doctorat philosophie.
C'est votre restaurant?
Ça, c'est un restaurant, ma nièce Amandine et son frère et moi, si je suis là pour aider. À la fois ce restaurant, à la fois ce centre culturel. En fait, on a bien accueilli les gens. Aussi, on a fait 100% fait maison, quelque chose de bon pour la santé. Notre restaurant, c'est quelque part au centre de Paris pour accueillir les gens, représenter le Tibet, à la fois les nourritures, à la fois la culture. Aussi, en répondant à toutes les questions par rapport à la philosophie, la culture tibétaine.
Ce que vous avez voulu, c'est un endroit où on mange, mais on mange aussi avec l'esprit, c'est ça?
Exactement. C'est le meilleur plat tibétain. Le plat principal tibétain, vous connaissez?
Non.
Le plat principal tibétain, c'est être bonne santé pour vis-à-vis des autres.
Françoise Robin, les Tibétains ont envie de cela, de cet équilibre entre la spiritualité et le corps et le matériel, ça se retrouve partout?
Oui, étant donné qu'ils sont bouddhistes et que le bouddhisme c'est surtout un travail de l'esprit ou sur son propre esprit, donc c'est tout à fait normal de prendre en compte, même dans un restaurant, mais vous avez affaire à un restaurateur un peu particulier parce qu'il est avant tout un docteur en philosophie, donc c'est un religieux, c'est quelqu'un qui a un long parcours d'apprentissage des textes tibétains, donc il transpose ça dans son restaurant. Le fait d'insister sur la santé, souvent les Tibétains, les restaurateurs tibétains insistent sur le fait que leur nourriture est toujours fraîche, fabriquée maison, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore un assez grand réseau pour avoir affaire à du congelé, à du surgelé. Il n'y a pas de grosse usine qui leur fabrique tous les jours des plats tibétains. Donc c'est vrai qu'ils se démarquent de pas mal de restaurants en faisant eux-mêmes souvent leur nourriture en cuisine.
Là, c'est la carte Geshe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans cette carte?
Alors, c'est la carte, le plat contournable, c'est Troma. C'est la racine de fleurs jaunes qui pousse à altitude de 3700. C'est sauvage, personne cultivé. Il faut monter à la montagne. Donc ça, c'est vraiment, ça vient direct de Tibet. C'est mon frère et les enfants qui recrutaient et envoyaient chez nous.
Ça vient directement du Tibet?
Oui, oui, oui.
C'est votre frère qui l'envoie?
Oui, oui, pas plus que ça. On a encore de thé noir qui vient de Tibet, le poivre, le piment, beaucoup de produits qui viennent direct de Tibet.
Est-ce qu'on peut aller voir votre cuisine? Ça vous embête? Non.
Allez.
On y va. Là, je peux sonner.
Oui.
Voilà. Bonjour.
Il parle pas, hein.
Il parle pas.
Mon neveu, il parle pas français.
C'est vrai, il parle tibétain?
Oui.
Alors là, dites donc, il y a beaucoup de choses. Moi qui connais pas la nourriture tibétaine, c'est quoi le plat que vous dites, que vous conseillez quand on veut goûter la nourriture tibétaine?
Ça dépend. S'il y en a, on a beaucoup de fait choisir le plat végétarien. On a pas mal de choix. Parce que nous, on est bien que consommer moins de viande. Mais Tibet, la nourriture basse, c'est farine d'orge. Comme le couscous pour africains, baguette pour nous français. Du coup, le farine d'orge, c'est très bien pour quelqu'un de diabète, base de farine d'orge.
On aime manger quand on est tibétain? On aime ça manger?
Oui, au Tibet, on mange 5 fois par jour dans la région. Pourquoi? Parce que l'air il est tellement propre, l'eau il est tellement propre, donc tous les 2 heures, on faim. Donc à cause de l'altitude aussi. La nourriture tibétaine, ça n'existe pas congelé, parce qu'il n'y a pas de congélateur. Donc, il n'y a pas de stockage, que des secs ou le produit bio. Donc, en fait, tout est fait maison à la minute, frais. Ça veut dire, conclusion, en fait, les plats tibétains sont frais, faits à la minute, et ni chinois, ni indien, au milieu, un peu montagnard.
Pas chinois?
Non.
Et pas indien?
Non.
Un peu plus indien que chinois, je pense.
Oui, la culture, oui. Le langage, oui. C'est comme le latin français.
Et c'est important de garder cette culture-là?
Bien sûr, bien sûr. Notre identité, c'est le matin, on fait les vœux. Aujourd'hui, j'ai essayé maximum d'aider les autres. Si je n'arrive pas à aider les autres, je ne fais pas mal les autres. Ça, c'est notre, chaque jour, notre vœu.
Ça veut dire que tout ce que vous faites est quand même empreint de philosophie?
Oui, la culture tibétaine, ça vient de la philosophie.
On va manger d'abord.
Oui, on va les manger.
Allez.
On y va.
Bœuf sauté, chapalet.
Chapalet,
oui.
C'est quoi le chapalet?
C'est les chaussons de bœuf.
Et alors, est-ce qu'au Tibet, on mange avec des baguettes, comme en Chine, ou avec une fourchette?
Baguette, c'est pour le chinois. Fourchette, c'est pour occidentaux. Tibet, c'est ça. La cuillère en bois.
Très bien, en noyer, je pense, c'est ça.
Voilà, je ramène de là-bas.
Bon, on va goûter alors.
Oui.
Je vais goûter le bœuf.
C'est bon.
C'est bon. Là, on est dans du bon. On est dans du très bon. Alors, comme on dit, merci, on a bien mangé en tibétain.
Shela Nyembochons, Tujiche.
Shema.
Shela.
Shela.
Nyembochons.
Nyembochons.
Tujiche.
Tujiche. Voilà. Je vais m'arrêter là, moi. Merci en tout cas pour cet accueil merveilleux.
De rien, vous êtes toujours bienvenus. Tous les gens qui entendent, écoutent, si vous avez intéressé la culture, la nourriture tibétaine, vous êtes bienvenus.
75 ans après l'invasion du Tibet par la Chine, la culture tibétaine n'est donc pas morte. Pour preuve, la communauté tibétaine continue de faire découvrir certains aspects de sa philosophie, comme encore dernièrement avec la réalisation d'un mandala à Paris, dans la mairie du 11e arrondissement. Mandala est un terme sanskrit qui signifie circonférence et centre à la fois. Une fois réalisé, il invite à la méditation et rappelle surtout que tout dans le monde est éphémère, car c'est aussi la force et la beauté des mandalas de sable que d'être dispersés une fois terminés.
Alors, nous sommes à l'intérieur de la mairie du 11e arrondissement à Paris. Une mairie qui a la particularité d'être jumelée avec la ville de Lhasa, au Tibet. Et ce mercredi, il va se passer quelque chose d'un petit peu particulier avec la dispersion d'un mandala. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
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 Je m'appelle Tenzin Benba, je suis moine de tibétain.
Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on regarde en ce moment?
Oui, ça c'est on regarde ce mandala de la paix, mandala de Tienresi.
Un mandala de la paix.
La paix, compassion. Mandala c'est Kinkur.
Nimbulemba. Maybe, ok. Donc, c'est la capacité de réunir la totalité et prendre l'essence des choses qui sont, on pourrait dire, l'essentiel.
C'est un cercle, c'est important, la notion de cercle.
Oui, c'est Gogo, c'est Tsimora. Gogo, c'est Tina, Shegan, Tushi, Goshi.
En fait, ce qu'il a exprimé, c'est tout à fait l'importance du cercle, mais c'est les différentes choses qui sont circulaires. En fait, on voit le mandala au centre, il y a un cercle sur lequel il y a un lotus à 8 pétales. Ensuite, nous avons le mandala qui est, en fait, comme une maison, un plan d'une maison ou d'un palais céleste qui est carré. Et ensuite, nous avons les jardins circulaires, le lotus qui entoure est circulaire aussi. On voit les Vajras qui sont dans un cercle circulaire. Et autour, on a ce qu'on appelle Méri, c'est-à-dire des montagnes de feu, qui sont effectivement circulaires.
Ça prend des heures et des heures. Combien de temps il faut pour faire celui-là?
Ils sont presque 8 jours.
Et chaque jour, peut-être 8 heures par jour. 8 heures, 7 heures, 8 heures. Pour deux moines qui travaillent simultanément.
C'est magnifique, c'est coloré. On a l'impression que c'est parfait.
Ok, merci beaucoup.
Mais expliquez-nous pourquoi vous allez le détruire.
Voilà.
En fait, oui, on va le détruire dans le sens que c'est pour symboliser l'impermanence. Ainsi, on voit l'impermanence des choses. Effectivement, les choses sont belles, très agencées, etc. Mais en même temps, elles ne sont pas là pour demeurer. Tout, à un moment donné, a une fin et est détruit. Et donc, avec cette réflexion sur l'impermanence, il est donc dissolu. On ne dit pas détruire, c'est un peu violent. On dit dissoudre le mandala. Il est dissous.
C'est ce message-là qu'on doit comprendre avec le mandala, nous occidentaux.
Oui.
Tout à fait. En fait, ça, c'est un premier message. Mais l'autre message, c'est que par ce mandala, l'idée, c'est de montrer la possibilité de réduire ce qu'on appelle les poisons mentaux. Ou les poisons, tout simplement, qui sont dans nos cœurs, comme le désir, la colère, l'orgueil, la jalousie, etc. Et donc, c'est l'intention, c'est de prendre conscience, pour les moines, le message, d'essayer, si vous voulez, la paix, si vous voulez, l'harmonie, de réduire ces poisons mentaux. Et donc, ça, c'est vraiment le message qu'ils veulent transmettre. Et donc, en fait, ce n'est pas religieux, ce n'est pas une pratique religieuse, ça n'a rien à voir, c'est simplement quelque chose d'universel, c'est un message universel qui n'est en aucun cas l'attribut ou l'apanage d'une tradition religieuse particulière.
Merci pour les explications, merci.
Ok, merci beaucoup.
Merci.
À quoi correspondent les cloches.
Oui. En fait, la cloche, c'est un symbole très profond. En fait, c'est une association. Il y a le Vajra dans la main droite et la cloche dans la main gauche. Et donc, le Vajra symbolise ce qu'on appelle les moyens habiles ou la compassion. Et la cloche, ça symbolise, on peut dire, la sagesse. Mais c'est beaucoup plus subtil dans le sens que l'idée du son, en fait, si on cherche le son qui produit la cloche, il n'est nulle part. Il n'est ni dans la cloche, l'extérieur de la cloche, ni dans le bourdon, ni même dans le geste, mais simplement l'association de tout ça qui produit le son. Donc la cloche, c'est ce symbole, ce rappel que les choses apparaissent sur la base de causes et de conditions qui leur donnent naissance. Mais si on cherche quelque chose précisément dans toutes ces conditions ou ces causes, on ne trouve rien. Et donc c'est ainsi la cloche a ce symbole de la sagesse au sein du bouddhisme.
Alors là, j'ai l'impression que ça va commencer. Ça y est, il retire.
Voilà, il retire les différents symboles, en fait, qui symbolisaient les différentes déités. Donc elles sont retirées comme si elles partaient, en fait, de la maison du mandala. Et après, donc, ils vont tracer les différentes lignes, les 8 lignes qui, en fait, permettent littéralement, on pourrait dire, à tous les êtres de rentrer dans le mandala avant d'être dissolus.
Comment ils vont le dissoudre ?
Comme ça, regarde, tout simplement.
Ah oui. Ils tracent des traits à l'intérieur du dessin.
Et après, tout va être rassemblé et complètement, comment dire,
mélangé.
Mélangé, voilà.
Toutes ces heures de travail pour en arriver là.
Quelques secondes, oui. Mais c'est aussi ça la beauté de ce travail, c'est que malgré toute cette beauté, tout ça, on doit finalement prendre conscience que les choses sont éphémères et que on doit accepter que tôt ou tard, même les plus belles choses sont amenées à disparaître. Et donc là, ça se fait en quelques secondes. L'impermanence, c'est quelque chose qui apparaît d'instant en instant, mais la finalité, au final, est la même, que tout est détruit, tout est, voilà, c'est fini.
Sauver la culture tibétaine, c'est surtout une question de mémoire. Il faut garder en mémoire les histoires, les prières, la langue tibétaine. La Chine l'a bien compris puisqu'elle est accusée par les ONG de supprimer l'enseignement du tibétain dans ses écoles au profit du chinois. Les autorités tibétaines l'ont bien compris également, qui incitent la diaspora à ne pas perdre cette richesse. La course contre la montre a donc débuté. À Paris, toutes les semaines, ce sont des centaines de jeunes qui, à partir de 6-7 ans, apprennent à écrire et lire le tibétain. Les cours pour les adolescents sont donnés les samedis. Les cours pour les plus jeunes sont dispensés le dimanche.
Alors, nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris, un dimanche matin, et nous allons quand même vivre une rentrée. Bonjour.
Bonjour.
Vous parlez français ?
Un petit peu.
Un petit peu. Vous pouvez juste me dire ce que vous faites ici ?
C'est la étude. Pour le tibétain, à un moment, on apprend la langue ici.
C'est la rentrée pour tout le monde, là ?
Oui, c'est ça.
Vous êtes tibétain ?
Oui.
Et vous avez des enfants ?
Oui.
Et tout le monde veut que ses enfants parlent le tibétain ?
Oui.
Bon, et c'est dur à apprendre le tibétain ?
Normalement,
c'est dur.
C'est dur, ouais.
C'est dur. C'est plus dur que le français. Ouais.
Donc là, les enfants, ça va être difficile. Vous leur parlez en tibétain quand vous êtes chez vous ?
Oui, c'est ça. Oui, c'est langue maternelle, c'est plus important. Oui. Ouais.
Bon, je vais aller voir à l'intérieur alors.
Oui, bien sûr.
Merci. Alors, plusieurs classes avec beaucoup d'enfants tibétains qui sont là. Rien que dans la pièce où je suis là, il y en a au moins une trentaine. Dans la deuxième classe, ils ont l'air un petit peu plus grands. Et c'est pareil, ils sont au moins une bonne trentaine, sans compter tous les enfants qui sont dehors. Les cahiers sont ouverts.
Bonjour.
Vous êtes le professeur ?
Oui.
Donc ça, c'est la rentrée ?
Oui, c'est la rentrée. C'est le premier jour de l'année.
Votre prénom à vous ?
Norla.
Norla. Et vous êtes tibétaine ?
Oui.
Ouais. C'est difficile, le tibétain. Là, je vois, ils écrivent. C'est une calligraphie bien particulière ?
Oui, c'est ça. Au début, c'est un peu difficile. Calligraphie, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de... chose à respecter, mais après, une fois ils sont habitués, ça va très bien.
Et ils entendent parler tibétain à la maison, c'est ça ?
Oui, 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 oui. Et même dans la classe, on parle que tibétain.
Qu'est-ce que vous leur expliquez ?
Elle disait qu'on devait apprendre, elle a dit que vous connaissez les yata, les ratla et les sangha.
C'est quoi les yata?
C'est l'écriture tibétaine et...
C'est quoi ton prénom?
Tenzin Kwinze.
Et tu apprends le tibétain dans cette école depuis combien de temps?
Depuis 2 ans.
Ça fait 2 ans. Et déjà, tu te débrouilles bien à l'écrit?
Oui.
Tu parlais le tibétain avec tes parents, je suppose?
Oui.
Vous parlez le tibétain à la maison?
Oui.
Pourquoi c'est important?
Ma mère, elle dit, si tu connais pas le tibétain, t'es plus un tibétain. Du coup, c'est pour ça.
C'est important d'apprendre notre langue.
C'est important d'apprendre votre langue.
C'est important parce que là, si tu connais pas le tibétain, après ça va être dur la vie. Parce que s'il y a quelqu'un qui te demande une question en tibétain, après tu vas dire non, je connais pas le tibétain.
Qui c'est qui peut me dire ce qu'il y a d'écrit là? Alors, vas-y.
Ka 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 nga cha 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 nya ta 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 na pa 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 ma. Ça, 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 wa, ça, ça, ya, ra, la, ça, ça, ha, ha.
Et ça veut dire quoi tout ça?
C'est des alphabets au tibétain.
Eh ben bravo, parce que là, t'as un sans faute, j'ai l'impression.
Ah, merci.
Bon, je vous laisse travailler, bon courage, merci. Merci de m'avoir parlé, c'est gentil. C'est quoi ton prénom, je ne t'ai pas demandé?
Moi, je m'appelle Chokden.
Chokden? Eh ben merci beaucoup. Bon courage à tous. Vous leur apprenez le tibétain, mais c'est plus que le tibétain, c'est l'histoire de leur pays, c'est la mémoire de leur pays.
Oui, bien sûr, c'est la prioritaire de tibétain, de garder notre identité jusqu'au bout. Même si on n'a pas de pays où, comment dire, en ce moment, notre pays est occupé par la Chine, mais notre culture et notre identité, ça existe toujours. Et c'est notre responsabilité de garder notre identité jusqu'au bout.
Il y eut une époque où la défense du Tibet était à la mode. En 1989, lorsque le Dalai Lama a reçu le prix Nobel de la paix, puis un peu plus tard, en 2008, lorsqu'il est fait citoyen de la ville de Paris par l'ancien maire Bertrand Delanoë, il était facile de parler du Tibet. On se souvient même de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, en octobre de cette même année 2008, recevant des mains du Dalai Lama en Pologne la fameuse kata, cette écharpe de prière tibétaine. Mais cela est maintenant loin, les maires ont changé, les présidents ont changé et la Chine ne supporte plus la moindre critique sur le sujet. Cela n'empêche pas certains, comme les membres de l'association Lacar France, de se démener pour faire vivre la culture tibétaine en France. Ce jour-là, nous sommes en juin, elle recevait 3 moines avec pour objectif de faire découvrir la puja, une sorte de prière tibétaine. Alors, nous sommes dans le 13e arrondissement de Paris, à la frontière avec le 14e, et nous allons rencontrer des moines tibétains qui sont à Paris pendant quelques jours et qui sont là pour faire découvrir le puja. Ce sont des chants religieux. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, nous sommes dans une petite cour, c'est magnifique. Céline, c'est vous? Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Alors, Céline, est-ce que vous pouvez, juste avant qu'on commence, nous expliquer qu'on va rencontrer?
Alors, vous allez rencontrer 3 moines tibétains qui viennent d'Inde et qui vont faire une tournée de puja à travers la France. Donc, les pujas, ce sont des prières, une cérémonie de prière. Donc, ils vont dans des centres tibétains, dans des appartements de tibétains et aussi dans des appartements de français aussi.
Ça s'adresse aux Français qui veulent découvrir le tibétain et puis à toute la communauté tibétaine qui est importante quand même à Paris et en France.
Absolument. En France, il y a à peu près 15 000 tibétains. Et c'est vrai que la culture tibétaine, de toute façon, tous les Français sont intéressés par la culture tibétaine, mais pas que les Français, puisqu'en Suisse, en Allemagne, voilà. Donc ils sont toujours très heureux de venir, et les personnes en France sont toujours très heureuses de les accueillir.
Allez, on va entrer. Bonjour.
Bonjour. So good to see you.
Bonjour.
Bonjour.
Nathanaël, yes. Votre nom ?
Gurupla. Alors, je vous présente Gurupla,
Gurupla,
Pema.
Et Tashila.
Yeah. Et vous allez nous aider à traduire.
Voilà.
Vous êtes tous moines, vous avez tous étudié en Inde, ou certains sont nés au Tibet ? Quelle est un peu leur histoire ?
Pema, il est né dans un village de Tawang, en ce moment sous contrôle indien. Donc, il a fait toutes ses études en Inde dans une école de dialectique à Dharamsala. En 2018, il s'est rendu dans le sud pour passer son cérémonie de Gishi.
Gishi, ça veut dire moine ?
Gishi, c'est un doctorat en philosophie bouddhiste. Ouais.
Donc, ils ont tous étudié à peu près au même endroit.
Exact.
Qu'est-ce qu'on apprend quand on est enfant et qu'on va devenir moine ? C'est quoi l'essence de ce qui va être enseigné ?
L'essentiel porte sur la dharma, en tout cas l'enseignement des philosophies bouddhistes. Et à l'heure actuelle, le cursus a évolué. Maintenant, ils ont intégré plein de différentes leçons de sciences physiques, psychologie, etc. Donc, pour un peu faire face de l'époque. Mais avant, c'était tout tourné, pointé sur le dharma, les enseignements de philosophie bouddhiste.
Et dharma, vous pouvez expliquer un peu?
En fait, dharma en tibétain se dit chu, qui a deux connotations. La première, c'est le sens universel, qui veut désigner l'ensemble des phénomènes. Mais ici, dans le contexte du dharma au bouddhisme, en fait, ça renvoie aux enseignements de Bouddha, en fait, dont le but principal oriente vers à l'intérieur pour dresser, dompter l'animal sauvage de l'esprit. Comment dompter cet esprit qui est l'origine, qui est sous l'emprise de l'ignorance. Et c'est l'ignorance qui génère deux autres poisons, c'est l'aversion et l'attachement au désir.
Est-ce que la philosophie bouddhiste, ça sert de ciment aux Tibétains?
Pour ce qui concerne le bouddhisme tibétain, certes, parce que ça s'entendait que c'est un joyau que le Tibétain possède, cet enseignement, la sagesse du Bouddha Dharma, ça enseigne une richesse culturelle, ce dont on peut être fier. C'est pour dire que voilà, nous sommes régis par la même nature humaine, aspirons au bonheur, ne pas souhaiter échapper aux souffrances, etc. Donc, essayer d'en tout cas implanter ne serait-ce qu'un petit grain chez les êtres pour qu'ils soient plus gentils, plus humbles. Et malheureusement, compte tenu du contexte actuel que nous connaissons dans le monde, il y a beaucoup de conflits armés qui s'éclatent, beaucoup d'êtres innocents qui meurent de part et d'autre. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on n'est pas là pour attribuer de bons points, mauvais points, mais pour se dire que la conscience humaine, nous sommes destinés à être heureux, vivre dans la paix. Donc d'où l'importance à l'heure actuelle, l'importance de la non-violence.
Pouja, pour terminer.
En fait, les pratiques de rituel, principalement, il y a trois pratiques les plus répandues. On parle de la Bouddha de Victoria, Namgyalma. C'est un Bouddha qui élimine toutes sortes d'obstacles extérieurs, intérieurs, et secrets, etc. Aussi, il y a la Bouddha de médecine. Dans la société tibétaine, dans la société bouddhiste, en tout cas, c'est très connu. Pratique de Tarapucha, pratique de Mana, c'est le Bouddha de médecine, pratique de Namgyalma, c'est quelque chose qu'on fait chaque année.
La diaspora tibétaine qui se bat pour continuer de faire vivre sa culture et la faire connaître dans le monde, une mission difficile, surtout si on lui met des bâtons dans les roues. C'est en tout cas ce que pensent les Tibétains de France qui depuis un an se mobilisent pour que le nom de Tibet ne disparaisse pas. L'affaire est née en 2024 lorsque le musée Guimet a décidé de remplacer le mot Tibet dans ses vitrines par le terme monde himalayen. Et cela pour faire plaisir au régime communiste chinois, dénonce les Tibétains. Un effacement insupportable pour les Tibétains et pour sa jeunesse qui a repris le combat de ses parents. Une jeunesse mieux organisée qui utilise les outils présents pour faire parler de leur pays, à savoir les réseaux sociaux. Les étudiants tibétains y sont présents, ainsi qu'un groupe de militants connus sous le nom de VETAG, comme groupe de plaidoyer volontaire pour le Tibet. C'est sur Instagram qu'ils postent leurs vidéos de protestation contre la politique du musée Guimet, musée national à Paris, qui est normalement censé défendre les cultures d'Asie.
Bonjour à tous, je m'appelle Tenzin Chögel et je fais partie de la diaspora tibétaine. Je suis arrivé en France à l'âge d'à peu près 11 ans et depuis je vis ici. Et en ce moment, je suis en études supérieures, je suis en master de finance. Moi, depuis tout petit, on m'a éduqué en tant que Tibétain, même quand je suis arrivé en France. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis franco-tibétain et c'est une fierté pour moi de faire partie de cette nation de droits de l'homme et en plus d'être tibétain.
Bonjour, je m'appelle Kunsel, j'ai 23 ans. Je suis actuellement étudiante en licence de LSR anglais. Je suis arrivée en France en 2014 et je suis née en Népal.
Et tu es de nationalité franco-tibétaine ?
Oui, je suis française depuis plus de 5 ans.
Bonjour, alors je me présente, moi c'est Tenzin Sangpo, j'ai 28 ans, ça fait un peu plus de 11 ans que je suis en France. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans, maintenant je me considère comme français parce que je suis très intégré dans la société française et moi j'ai une fierté d'être à la fois français et à la fois tibétain.
Qu'est-ce qui fait Tenzin, qu'est-ce qui fait que vous êtes tibétain ? C'est quoi être tibétain ?
Bah déjà c'est notre histoire commune à tous et ensuite c'est la langue, au-delà de ça notre culture qui est richissime. De ma génération je veux dire, c'est toute cette souffrance qu'on a en commun parce que finalement, comme tous les Tibétains, il y a un moment où on a tous eu une sorte de crise identitaire. On est tous nés dans des pays qui n'est pas le nôtre de base et la souffrance en commun c'est de se dire que on se sent tibétain. On a tout ce qu'il faut pour être tibétain, sauf le pays. Et faut aussi justifier ça aux gens qu'on est tibétain. Et quand on leur pointe notre pays sur une carte, on se retrouve à se justifier en disant « Ah, en fait, ça, c'est Tibet. En fait, c'est pas la Chine. En fait, en 49, on a commencé à se faire envahir. Et en 59, on a définitivement perdu notre pays. On a justifié qu'on est tibétain, alors que il n'y a pas à justifier, c'est juste naturel. On est tibétain et c'est tout.
Kunsel, tu es venue avec une robe tibétaine.
Oui, exactement.
C'est une façon aussi d'être militante.
Pour moi, porter vêtement traditionnel tibétain en France, à Paris, ça montre que déjà j'ai l'opportunité de mettre ce vêtement-là avec fierté et dire que je peux être fière non seulement de ma culture, mais aussi l'histoire de cette robe-là. Par exemple, celle-là, ça vient de région centrale Ouzang du Tibet. Et quand, par exemple, quelqu'un dans la rue me voit et me pose des questions, je pense que ça me permet de commencer une conversation autour de Tibet et aussi poser des questions et parler du Tibet et rendre les gens curieux sur le Tibet, c'est quoi Tibet et l'histoire du Tibet.
Est-ce que, Zhangpo, tes parents te parlent du Tibet ? Est-ce que c'est une histoire qu'on se raconte beaucoup en famille ?
Alors, quand j'étais petit, oui, on me raconte, j'ai posé des questions. Maintenant, comme je suis grand, mon devoir, c'est de dire au peuple, aux gens qui ne connaissent pas, surtout le Tibet, etc., de raconter l'histoire que moi, j'ai vécue et qui m'ont été racontées. Mon idée, c'est comme ça, de partager amicalement et faire propager cette souffrance, cet combat que nous menons.
Il faut communiquer, il faut raconter.
Alors, c'est une façon de le faire. Maintenant, tout se passe sur les réseaux, mais moi, je préfère raconter dans la vraie vie. Comme ça, j'ai une connexion avec la personne ou les personnes à qui je raconte toutes les choses. C'est comme si, quand je le raconte, ils font partie de ma vie parce que ça reste quand même des histoires assez personnelles. Donc, voilà.
Pourquoi on est venu devant le musée Guimet ?
Tout simplement parce que la culture, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et pas seulement les Tibétains. Et le musée Guimet, qui est censé être une musée qui sauvegarde la culture, qui sauvegarde l'histoire, a fait défaut à son rôle. Il a commencé à changer le nom de toutes les œuvres qui sont d'origine tibétaine, et ils ont commencé à le classifier sous le nom du mont Himalaya. C'est là où ça nous pose problème, parce que les mots ont leur importance. Si jamais les jeunes Français qui vont aller visiter le musée Guimet trouvent le mont Himalaya et ensuite la catégorie Tibet, ils vont se dire « Oh, le Tibet, il fait que partie du mont Himalaya », alors que ce n'est pas du tout le cas.
Ça veut dire que vous ne pouvez pas accepter qu'on nie votre existence, qu'on efface le Tibet?
Bah écoutez, il est impossible d'effacer le Tibet, ça, il faut être clair là-dessus. Là, le problème, c'est que, comme je vous ai dit, on est franco-tibétain. On a déjà perdu une fois notre pays, et maintenant, on voit que notre second pays, le pays d'adoption, la France, est en train de se faire envahir lui-même. Bah, nous, on le dénonce.
Votre action, ça a été de faire des vidéos ?
Ouais, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je suis secrétaire adjoint de la communauté tibétaine de France, l'association. Et bah, nous, on a commencé à faire des vidéos sur les réseaux. C'est pour mettre en lumière que les Français, les Françaises, les jeunes soient au courant de ce qui se passe en France, qui est inadmissible. Voilà.
Lise Yannick, directrice de Musée Guimet. Nous nous trouvons devant votre musée. Vos tentatives de manipulation en collaboration avec la partie communiste chinoise ne passera pas. Nous continuerons à manifester, à élever notre voix, jusqu'à ce que la vérité soit rétablie.
Donc vous avez commencé par tenter de discuter avec le musée.
Exactement.
Puis vous avez fait de la communication, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, ce que ne pouvaient pas faire vos parents.
Exactement. Après, les réseaux sociaux, ça fait partie de la nouvelle génération. Les anciennes générations, ils sont toujours en train de galérer sur Facebook. Là, on est passé sur d'autres choses. Donc, nous, on s'est dit, allez, on va attaquer sur les réseaux sociaux. Comme ça, ça fera parler et ça fera entendre les problèmes qu'il y a.
Les réseaux sociaux, c'est quoi, là ?
Alors, les réseaux sociaux, c'est majoritairement Instagram. Et après, on un peu sur Facebook. Des fois, on fait des vidéos sur YouTube, mais c'est très rare.
Pas TikTok ?
Pas TikTok, non.
Parce que TikTok, c'est une application chinoise.
Exactement. Et sur les paramètres de TikTok, dans les politiques de consommateurs, c'est très vague. Il y a des lignes où ça peut nous pirater le téléphone. On ne se rend pas compte. Ils auront accès à des données.
Donc pas confiance, c'est ça que vous êtes
exactement
en train de me dire.
Exactement.
Est-ce qu'on peut dire que c'est vous qui continuez le combat d'une certaine façon ?
Bien sûr, bien sûr. C'est pas un combat qui est prêt de s'arrêter. On va pas abandonner. La nouvelle génération a toujours décidé de continuer le combat. Et c'est ce qui est beau finalement.
Comment on dit merci en tibétain ?
Tuchena.
Tuchena ?
Exact.
Alors Tuchena à tous les trois. Merci.
Merci à vous.
Tibétain de France, préserver son âme en exil, un reportage de Nathanaël Charbonnier avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour prolonger ce reportage, nous sommes avec la tibétologue Françoise Robin et la sinologue Marie Holtzmann. Je vous propose de revenir tout de suite sur ce changement de dénomination qui met en émoi les Tibétains de Paris. Avec la disparition du mot Tibet dans certains musées, Marie Holtzmann, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il y a pu y avoir ingérence chinoise ou que la France a voulu ménager la susceptibilité chinoise ?
C'est plus que probable, c'est à peu près certain. Effectivement, le mot Xizang est le fruit d'un rude combat en ce moment, parce que les Chinois voudraient en quelque sorte faire disparaître toutes les cultures halogènes de la Chine. Les Ouïghours ont le même problème. Ils disent « nous sommes le Turkestan oriental ». Les Chinois répondent « non, vous êtes le Xinjiang », parce que le Xinjiang, c'est un mot chinois. Et maintenant, ils voudraient imposer au monde occidental le mot Xizang, qui est imprononçable pour nous, qui n'a pas de connotation, pour qu'on oublie le Tibet. Parce que pour nous, le Tibet, c'est associé au Dalai Lama, donc c'est une tactique.
Alors, Nathanaël, vous avez suivi cette actualité avec les dernières déclarations de la France, justement, qui s'est justifiée.
Oui, alors ce qui s'est passé concrètement, c'est que la rapporteuse spéciale des Nations Unies, donc sur les droits culturels, s'est saisie de la question de ce qui se passe au musée Guimet. Elle a donc posé quelques questions à la France, qui a répondu. La réponse est arrivée le 25 septembre dernier. Et à une fois cette réponse connue, elle a quand même continué de dire qu'il y avait un problème en France sur l'effet effacement de l'identité tibétaine et que cela se passait dans un musée national, c'est encore plus grave. D'autant que, comment dire, les Tibétains ont fait savoir qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc elle dit, c'est pas le rôle d'un musée d'effacer l'identité d'un peuple, notamment quand ces Tibétains manifestent pour le faire savoir. Il faut savoir que les Tibétains manifestent devant le musée Guimet depuis plus d'un an maintenant, quasiment toutes les semaines.
Françoise Robin, on a entendu des étudiants en première ligne dans ce combat. Est-ce que ces jeunes militants sont représentatifs? Est-ce qu'il y a un réel engagement de la jeunesse tibétaine?
Alors, comme l'a dit, je crois, Cécile Mingui dans le reportage, il y a environ 15 000 Tibétains, enfin, on ne sait pas très bien, c'est difficile de les compter, mais on est entre 12 000 et 15 000, on va dire.
En France?
En France, bien
pas
sûr.
Pas seulement à Paris, d'ailleurs.
Oui, pas seulement à Paris, mais principalement en région parisienne. Bon, il faut savoir qu'ils sont à peu près 7 millions hein, en tout sur, au Tibet, plus diaspora, mais la diaspora est assez de faible effectif. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas fait de sondage auprès de toute la jeunesse tibétaine, donc c'est difficile pour moi de vous dire si ces jeunes sont représentatifs. Ils sont représentatifs de jeunes tibétains engagés. Je crois que tous les Tibétains, même s'ils naissent en France, sont élevés quand même dans des familles où il y a une conscience vraiment forte qu'ils sont détenteurs d'une culture singulière. Ça, vraiment, je pense que c'est partagé par tous les Tibétains. Et ils pensent aussi que cette culture est une sorte de cadeau qu'ils peuvent faire à l'humanité. C'est une culture bouddhiste, une culture alors, ouais, qui a beaucoup, où on a beaucoup, disons, appuyé sur la non-violence depuis 1959, le départ du Dalai Lama en Inde. Et que donc, ce serait une perte terrible pour les Tibétains, mais aussi pour l'humanité. Et donc, ils se sentent vraiment détenteurs d'une sorte de joyau. Et les enfants, même les gens qui ne sont pas cultivés, et qui ne sont pas illettrés, il y en a, vraiment transmettent ce message à leurs enfants. Donc, forcément, ça infuse. Alors après, il y en a qui s'en détachent, et puis il y en a qui reprennent le flambeau. Je pense qu'ils sont assez nombreux à se sentir vraiment concernés.
Marie Holtzmann, la Chine se défend de vouloir effacer la culture tibétaine. Elle prétend agir évidemment que pour le bien des Tibétains. Quelle est sa stratégie en réalité?
Alors, la stratégie chinoise est toujours à long terme et se fait petit à petit par des grignotages. Je dirais qu'au Tibet, on a beaucoup développé le tourisme et donc il y a eu beaucoup de construction d'hôtels, l'aménagement de certaines villes, la voirie, etc. Et forcément, ça provoque un enrichissement pour certains restaurateurs, etc. Et je pense que l'idée des Chinois, c'est de doucement attirer les Tibétains hors de leurs préoccupations. Autrefois, les Tibétains, s'enrichir, c'était vraiment pas le but dans leur vie. Il y a ça d'une part. De l'autre, il y a la volonté vraiment d'éteindre la langue tibétaine, puisque les petits-enfants sont envoyés dans des internats. Et dans ces internats, toute la semaine, ils parlent en chinois. Donc j'ai entendu dire que beaucoup de petits-enfants avaient des difficultés à communiquer avec leur grand-mère, qui, elle, ne parlait que tibétain et pas du tout chinois.
Il y a une évolution de la politique chinoise. On a l'impression que c'est particulièrement dur en ce moment.
C'est particulièrement dur, oui, parce que Xi Jinping ne fait pas dans la dentelle, il est brutal. On peut comparer avec ce qui se passe au Xinjiang, le Turkestan oriental, où là on a eu des millions de Ouïghours qui sont passés à travers des camps de réforme, en fait, où on leur disait toute la journée qu'il fallait qu'ils disent combien Xi Jinping était merveilleux, etc. La politique est un peu plus soft avec les Tibétains. Je n'ai pas entendu parler d'incarcération comme ça de milliers de Tibétains, mais elle est plus insidieuse et le tourisme chinois est énorme. Ce sont des dizaines de milliers de touristes chinoises qui débarquent tous les jours à Lhasa et ailleurs.
Nathanaël Charbonnier.
Oui, le Dalai Lama, dans son livre, explique qu'au début des années 50, il rencontre Mao et il discute avec lui et il est même assez tendre dans sa façon d'appréhender Mao. Françoise Robin, vous pensez qu'il s'est fait avoir d'une certaine façon?
Alors, il s'est fait avoir, bon, il était jeune et quand bien même il était le Dalai Lama, pris en main par des tuteurs hein, pour avoir l'éducation la plus pointue et la plus excellente qui soit, puisque dès l'âge de 4 ans, il avait été vraiment élevé pour son futur rôle. Il découvrait aussi un monde qu'il ignorait parce que les Tibétains ne parlaient pas chinois maintenant. Ils vont devenir monolingues en chinois, évidemment, maintenant, mais toute cette génération ne très très peu de Tibétains parlaient chinois, sauf ceux qui vivent vraiment aux frontières. Mais quand on était à Lhasa, on était à 4000 km de Pékin, on ne parlait rarement chinois. Et donc le Dalai Lama et peut-être toute la haute société et toute la société tibétaine de Lhasa, les gens finalement connaissaient très mal la culture chinoise et encore moins le communisme chinois. Alors ce qu'ils connaissaient du communisme, c'est qu'en fait, il faut savoir aussi que ce fameux bouddhisme tibétain dont les Tibétains sont très très fiers, a essaimé aussi jusqu'en Mongolie. Depuis le XVIe siècle, la fin du XVIe siècle, et donc les Mongols sont devenus des adeptes fervents du bouddhisme tibétain, et il y a beaucoup de pèlerins mongols qui venaient à Lhasa. Or, ces pèlerins mongols ont subi de plein fouet la répression pendant l'époque des camps sous Staline, en fait. Et donc, les Tibétains qui étaient en lien avec les Mongols, les religieux notamment, ont compris que le communisme n'était pas du tout favorable au bouddhisme. Donc ça, ils le savaient. Et puis c'est à peu près tout. Donc, comme dit Marie, en fait, souvent les dirigeants chinois avancent très doucement, avancent masqués, c'est-à-dire qu'il y a un discours au départ très respectueux, c'est pour votre bien, nous allons vous ouvrir des hôpitaux, il y avait tout un discours tout à fait mielleux, c'est pas très, très, très scientifique, mais je pense que finalement c'est bien ça. Et le Dalai Lama, au début, effectivement, a pu être séduit parce que, d'après ce qu'il dit, il avait lui-même envie de réformer son pays, malgré tout. Dès sa jeunesse, il trouvait que son pays était quand même un peu attardé sur le plan international. Et donc, il avait là face à lui quelqu'un qui représentait une certaine modernité. Parce que le Tibet était quand même très fermé aux Occidentaux. Donc, c'était peut-être un des premiers étrangers, pas le premier, mais qu'il avait pu rencontrer.
À propos du Dalai Lama, Marie Holtzmann, pourquoi est-ce que les Chinois veulent absolument désigner son successeur? Qu'est-ce qu'il représente pour eux, le Dalai Lama?
Ben, ils savent surtout que le Dalai Lama, ce qu'il représente pour les Tibétains, c'est vraiment le Dieu vivant, c'est celui qu'ils aiment, qu'ils respectent, et ce Dalai Lama en particulier a très bien fait son travail, quoi. Il n'a pas fait de faux pas. Il a toujours été présent pour les Tibétains, de loin peut-être, mais il a été un excellent ambassadeur. Il est allé partout dans le monde pour raconter ce qui se passait au Tibet, mais surtout pour transmettre le bouddhisme tibétain. Et lorsque la sœur du Dalai Lama est retournée au Tibet une vingtaine d'années après l'exil du Dalai Lama, il y a eu des dizaines de milliers, sinon plus, des centaines de milliers de Tibétains qui se sont précipités pour la recevoir. Et ça a vraiment fait peur à l'époque à Mao. Et ils se sont décidés, là, jamais le Dalai Lama ne mettra les pieds au Tibet, sinon pour nous c'est fini. C'est-à-dire que tout d'un coup, tous les Tibétains vont se sentir plus Tibétains que jamais. Donc le Dalai Lama, c'est vraiment la personnification de l'identité tibétaine. Et les Chinois sont parfaitement au courant. Et c'est pour ça qu'ils ont kidnappé le petit Panchen Lama, qui devait être le successeur naturel du Dalai Lama pendant que la transition, quand le Dalai Lama ne serait plus de ce monde et qu'on attendrait le prochain Dalai Lama. Donc ils ont tout simplement kidnappé le Panchen Lama, qui est le plus vieux prisonnier politique du monde. On ne sait pas où il est, il n'a jamais réapparu, personne n'a jamais eu d'informations sur son bien-être ou sa vie, et il a été kidnappé avec ses parents.
Avec ses parents. Françoise Robin, depuis 2011, je crois, il y a un gouvernement des Tibétains en exil. Le fait que les pouvoirs spirituels et politiques soient... Enfin, un gouvernement des Tibétains en exil, je veux dire, séparé, bien sûr, du pouvoir du Dalai Lama. Donc, le fait que maintenant, le pouvoir spirituel et le pouvoir politique soient séparés, est-ce que c'est plutôt une force pour les Tibétains ?
Donc effectivement, il y a un gouvernement tibétain en exil depuis 1960, mais tout était détenu, le pouvoir politique comme le pouvoir religieux était entre les mains du Dalai Lama, comme voilà. C'était le cas d'ailleurs jusqu'en 59, sous le gouvernement tibétain depuis 1642, donc c'est un type de gouvernement qui a une longue histoire. Ils arrivent en exil, peu à peu le Dalai Lama observe la situation et voit d'une qu'il vieillit, et de deux que les démocraties, c'est quand même ce qu'il prône lui-même et que il est dans une situation un peu inconfortable, étant lui-même non élu, donc il propose donc de se retirer de son rôle politique et de mettre en place des élections. Donc c'est une force parce que ça permet de mettre le gouvernement tibétain en exil en accord avec ce qu'il prône et ce qu'il soutient, c'est-à-dire le principe de la démocratie. Et c'est une faiblesse parce que personne n'a le charisme du Dalai Lama. Donc qui peut nommer les premiers ministres qui se sont succédés au poste ensuite depuis 2011, donc maintenant ça fait 16 ans, 15 ans, c'est pas qu'ils déméritent, c'est qu'en fait ils n'ont pas du tout ni l'aura, ni le cachet du Dalai Lama. Ceci dit, le fait qu'on ne les connaisse pas, je pense que c'est plutôt lié à l'étranger, au fait que, comme disait Nathanaël Charbonnier dans son reportage, la mode en fait pour le Tibet est passée. Hein. Le grand moment, c'était le prix Nobel de la paix 1989, puis les années 90, et puis là, d'autres événements ont pris le dessus dans l'actualité, notamment tout ce qui est Proche-Orient, il y a eu les Twin Towers, et là, à partir de là, je pense qu'il y a eu un grand tournant, et un tourment aussi, effectivement. Et donc, l'attention est détournée pour les Tibétains. Le Dalai Lama est toujours là. Leur premier ministre est important. Il y a des enjeux importants quand ils votent. Il y a des campagnes politiques pour les différents candidats. Mais c'est avant tout le Dalai Lama qu'ils ont dans leur cœur, bien sûr.
Alors, vous dites que personne n'a l'aura du Dalai Lama, mais bon, il a quand même 90 ans. Les Tibétains redoutent son décès ?
Ah oui. Oui, bien sûr, et c'est un sujet dont ils n'aiment pas vraiment parler, et je me remémore toujours cette amie tibétaine qui, à Paris, qui me disait, vous savez qu'il fête, en fait, les Tibétains, l'anniversaire du Dalai Lama, en France, mais aussi, évidemment pas au Tibet, où c'est strictement interdit, bien sûr, mais partout ailleurs en diaspora, le 6 juillet, c'est l'anniversaire du Dalai Lama. Donc, le jour J, plus le week-end qui suit ce fameux 6 juillet, il y a toujours des célébrations de Tibétains qui se rassemblent à l'étranger. Et donc, je lui disais, en fait, comme ils sont quand même peu nombreux, ils sont éclatés ici, et alors on a du mal à se rendre compte quand on est dans son propre pays et qu'on a un pays, mais bon, quand on est comme ça dispersé quelque part, c'est toujours des moments importants, des moments de liesse collective que de se retrouver. Donc je lui disais, c'est bien pour vous, là vous allez avoir ce week-end pour vous retrouver tous. Et elle me dit très sagement, elle me dit, oui, mais à chaque fois on est un peu plus triste parce qu'à chaque fois il est un peu plus vieux.
Marie Holtzmann, je reviens vers vous pour qu'on comprenne vraiment en fait l'enjeu de cette politique d'assimilation culturelle menée par la Chine. Le Tibet a une importance stratégique pour Pékin.
Oui, bien sûr. Enfin, tout ce qui ressemble à une frontière, et le Tibet évidemment est une très vaste frontière, comme le Xinjiang, Turkestan oriental. Mais je crois plus que ça, c'est vraiment une volonté spécifique de Xi Jinping. Je ne dis pas que les autres étaient tellement plus tendres à l'égard du Tibet, mais Xi Jinping est nettement pire. C'est-à-dire qu'il veut vraiment une Chine forte, puissante et unifié. Alors que, en 1949, lorsqu'on a fondé la République populaire de Chine, on insistait beaucoup sur le fait que on était un pays multinational avec 56 ethnies, non Han. Et pendant beaucoup d'années, toutes les ethnies diverses se disaient chinois, ouïghours, ou chinois tibétains, enfin, plus ou moins, mais étaient conscients de faire partie d'un ensemble. Maintenant, c'est fini. Ils ne se sentent plus du tout chinois, ils ne veulent plus être chinois, ou ils ont été quasiment complètement détruits. Les Mongols à l'intérieur de la Chine, maintenant, sont très très peu nombreux, et des Mongols qui parlent encore mongol, il n'y en a pratiquement plus. Enfin, il y en a encore, mais vraiment très peu. Donc, c'est un enjeu de prestige, en quelque sorte, que la puissance de la culture chinoise soit telle qu'elle est capable d'absorber tout. Mais c'est un vieux rêve. Hein. Dans le temps, les Chinois, dans le temps des empereurs, ils considéraient que tous les peuples autour étaient en quelque sorte leurs subalternes. Et d'ailleurs, ils faisaient des présents à l'empereur chinois très régulièrement et ils respectaient la culture chinoise. Donc on retourne un peu à cette période-là.
Nathanaël.
Oui, le problème, il y a un problème d'effacement de la culture tibétaine. Un autre exemple qui concerne aussi la France sont les papiers d'identité. Jusque dans les années 2000, les réfugiés tibétains qui arrivaient en France pouvaient avoir sur leur papier d'identité le mot tibétain. Après les années 2000, c'est terminé. Maintenant, ce sont des Chinois. Et donc, ça participe à cet effacement, et la France participe à l'effacement parce que la France a reconnu la Chine dans sa globalité. Donc, toute personne qui habite en Chine est chinoise. Et cet effacement-là, il est invisible, mais il est d'une violence phénoménale pour les Tibétains.
Alors, je me posais une question, Françoise Robin. Cette culture tibétaine qui est défendue par la diaspora et qu'on entendait là dans le reportage, est-ce que c'est surtout un héritage, des traditions, en quelque sorte la mémoire de la culture, ou est-ce que c'est vraiment une culture vivante qui évolue et qui se métisse peut-être aussi ?
Alors, je reviens sur une partie de votre question. Vous dites défendue par la diaspora. C'est vrai que c'est le thème de notre émission, mais elle est vraiment défendue par les Tibétains au Tibet aussi, et avant tout. Et parce que c'est pour eux une forme de résilience extraordinaire. Enfin, peut-être la seule qui soit autorisée de faire des films en tibétain, de chanter en tibétain. Ça reste encore possible. Je ne sais pas pour combien de temps, mais ça se niche dans des petits interstices comme ça. Donc, les Tibétains au Tibet, qui sont 93% des 97% des Tibétains, ce sont eux les premiers à vraiment défendre leur culture quand ils le peuvent. Maintenant, en diaspora, oui, je pense que le reportage vous a bien montré qu'il n'y a aucun complexe de modernité, d'anti-modernité chez les Tibétains. Ils arrivent à tout concilier, c'est-à-dire que les jeunes sont bouddhistes. Alors, évidemment, être élevé comme bouddhiste, alors ils ont tous leur petit rosaire au poignet, etc. Qu'est-ce qu'une éducation bouddhiste ou bouddhique, pardon, en France, sachant qu'il n'y a pas de monastère à proximité? Comment refait-on les gestes? Qu'est-ce
alors,
qu'on
sait
vraiment?
Il y a des moines qui viennent d'Inde pour enseigner.
Voilà, il y a des moines qui viennent d'Inde, mais c'est pas très fréquent. Les rituels pour les personnes décédées, par exemple. Vous voyez, tout ce quotidien qui faisait aussi, qui nourrissait une certaine identité tibétaine, je ne sais pas vraiment comment elle va se transmettre. Ça, c'est une grande question pour l'avenir. Hein. Quel sera le degré de religiosité de ces nouvelles générations, mais en tout cas ils dansent, ils chantent, ils font du rap, ils font du rock, de la pop, et ils arrivent à tout combiner. Les écoles où Nathanaël Charbonnier s'est rendu, les classes les plus avancées, après la classe il y a des cours de lutte tibétain, donc ils font du lutte tibétain, mais ça ne les empêche pas d'aller en boîte le samedi soir et aussi d'avoir des groupes de rap tibétain. Il n'y a aucun problème.
Marie Holtzmann, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être sur la résistance des Tibétains au Tibet ?
Je voudrais parler d'une nonne qui était une nonne chantante. Elle faisait partie des 13 nonnes chantantes de la prison de Drapchi. Elle y a passé 12 ans. Elle a été torturée et elle s'est exilée en Belgique. Et donc, j'ai eu l'occasion de l'accompagner assez souvent parce que nous avons édité sa biographie, son autobiographie. Et je lui ai dit, tu crois en la réincarnation, donc est-ce que, après tout ce que tu as souffert, et maintenant que tu as vu l'Occident, est-ce que tu aimerais être réincarnée en quoi? Et elle a réfléchi et elle m'a dit, pour moi, le plus précieux, c'est ma culture tibétaine et c'est ce à quoi je tiens le plus. Bon, c'était une nonne, elle était très religieuse, elle baignait dans cette philosophie. Mais j'ai rencontré beaucoup de Tibétains qui m'ont répondu de la même façon.
Mais la répression est forte en Chine et c'est difficile effectivement au Tibet de préserver sa culture.
Ah ben oui, pour la première fois en 2023, quand je me suis rendue, pas pour la première fois, après de nombreuses fois, mais après le Covid en 2023, c'est la première fois que je mettais le pied au Tibet après 4 ans, j'ai vu pour la première fois des petits-enfants en zone tibétophone à 95%, des petits-enfants échanger en chinois, en langue chinoise. Donc là, c'est très inquiétant pour les générations à venir.
Merci Françoise Robin, merci Marie Holtzmann. On peut quand même se dire que malgré l'impermanence des choses, la culture tibétaine ne va pas disparaître tout de suite. Nathanaël Charbonnier signe le grand reportage de cette semaine Tibétain de France, préserver son âme en exil. Réalisation Annie Bro, à la technique Ludovic Auger, documentation Patricia Miura et Véronique Le Faller. Pour réécouter ou partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.